Nous sommes ici au collège de Mongrez, à Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon, un des grands établissements jésuites fondés au XIXe siècle par une riche bienfaitrice caladoise. Cet établissement est caractéristique de l'éducation et de l'enseignement jésuite au cours des 4 derniers siècles. On en verra sans doute plusieurs exemples et j'insisterai sur quelques détails, mais il faut se rappeler que Ignace de Loyola, lorsqu'il a fondé la Compagnie de Jésus avec certains de ses compagnons en 1540, n'avait pas un projet d'enseignement à proprement parler. Il a d'abord étudié à Paris à partir de 1528. C'est un gentilhomme qui a connu une vie mondaine, et puis après sa blessure à Pampelune en 1521, il est amené à une sorte de conversion au moment de sa convalescence et décide de consacrer sa vie au Christ. Il part d'abord à Jérusalem, puis ensuite revient en Europe et décide de faire des études. On est dans le contexte de l'humanisme et puis des débuts du protestantisme. Et l'idée de Ignace, c'est évidemment de convertir ses contemporains au catholicisme, à l'Église catholique romaine. Ignace de Loyola est étudiant à Paris. À partir de février 1528, il va faire la rencontre dans les universités parisiennes de ses premiers compagnons, gentilhommes basques comme François-Xavier en particulier, mais aussi Pierre Favre, qui est un savoyard et qui est déjà un peu plus avancé en études et qui sera ordonné prêtre d'ailleurs un peu plus tôt. C'est dans le climat parisien que se fonde la Compagnie de Jésus, cette société d'abord d'amis dans le Seigneur. Le projet des premiers compagnons, sous l'autorité d'Ignace de Loyola, qui d'ailleurs à cette époque-là change son prénom d'Inigo en Ignatius, c'est, en se réunissant à la fin de leurs études à Montmartre en 1534, de se mettre un jour au service du pape pour convertir les contemporains au catholicisme, les ramener à la foi catholique romaine. On est dans le contexte de l'humanisme et début du protestantisme. C'est à partir de ce projet que les étudiants se dispersent et décident de se retrouver à Venise un jour pour faire le voyage à Jérusalem, donc en Terre Sainte, selon eux, menacés par des influences hostiles au catholicisme. Empêchés de s'embarquer à Venise, à l'occasion de guerres, ils vont finalement se disperser dans toute l'Italie, puis se retrouver à Rome et, à partir de 1540, approcher les autorités romaines pour vraiment donner et institutionnaliser, donner une forme précise à ce qui devient donc la Compagnie de Jésus. Le personnage de Jésus est important, il est au centre de la foi chrétienne de cette époque-là et de la Compagnie de Jésus en particulier. Initialement, les jésuites n'ont pas un projet éducatif ou un projet d'enseignement. L'idée, c'est de répandre la doctrine catholique auprès des enfants, par le catéchisme par exemple, mais aussi auprès des ignorants. Et la Compagnie de Jésus, les premiers compagnons jésuites, vont d'abord développer une sorte d'apostolat qu'on qualifierait aujourd'hui de social, en particulier auprès de femmes prostituées. Alors, ce sont souvent des courtisanes ou des femmes qui ont une vie évidemment qui n'est pas tout à fait morale, et proposer de les accueillir et une fois encore de les ramener au catholicisme. Et puis de là, on est dans ce contexte une fois encore d'émulation, mais aussi de un rapport de concurrence entre le protestantisme et le catholicisme. L'autorité romaine, alors qu'il y a une demande dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, va les inciter à s'orienter vers l'enseignement. À partir de 1547, la compagnie a déjà accueilli un certain nombre de membres, et à Messine en particulier, où ils ont formé une école de formation de jeunes jésuites, les élus, les édiles locales, ou les édiles locaux, pardon, décident ou demandent à la compagnie d'ouvrir le collège à des enfants qui ne se destinent pas à devenir des religieux et à de futurs jésuites. Fin 1547, Ignace accepte cette organisation, et donc la compagnie entre d'une certaine manière dans le monde de la culture en devenant un ordre qualifié d'enseignant. 1548, on accueille donc des jésuites et de non-jésuites. 1551, au niveau supérieur, s'ouvre le collège romain à Rome pour les études supérieures. De là, la compagnie entre dans le domaine de la culture. Domaine de la culture qui est caractérisé par ce qui va devenir l'organisation propre de la formation jésuite. On débute avec une formation littéraire. On fait d'abord des classes dites d'humanité, d'abord de la grammaire, et puis ensuite on va jusqu'à la rhétorique, donc l'équivalent de la classe de première. Et puis ensuite, on va aborder la philosophie avant d'aborder l'enseignement majeur qui est la théologie. Donc dans le cadre des collèges, on parle de collèges avec des régences latines, c'est-à-dire on enseigne seulement le latin, les lettres, souvent classiques, on est à l'époque de l'humanisme, donc en grande partie les auteurs latins, quelquefois les auteurs grecs, même s'ils sont, ils apparaissent un peu suspects parce qu'ils ne sont pas marqués beaucoup par le christianisme. Et puis de l'autre, on va aussi proposer dans des collèges dits maximum un enseignement de rhétorique et de théologie. Alors cette organisation, on va la trouver assez rapidement dans un ensemble d'établissements qui naissent du temps de Ignace de Loyola. Il est né en 1491, il meurt en 1556, et pour la France en particulier, le premier collège des jésuites ouvre en Auvergne en 1556, quelques mois avant la mort d'Ignace. Mais Ignace est encore là pour superviser, donner son accord et suivre les conditions d'ouverture de ce collège. Alors, c'est à Billon, à l'est de Clermont-Ferrand, à cause de l'invitation d'un évêque qui a été touché par le côté brillant et vraiment l'aura ou le charisme que les jésuites ont au moment du Concile de Trente. Et cet évêque français décide d'inviter les jésuites français à ouvrir un établissement scolaire à Paris. Il y a une forte opposition en France contre les jésuites et en particulier du Parlement de Paris, qui regarde la Compagnie Jésus, qui a déjà un passif, je dirais, dans l'opinion. Les autres ordres religieux ont vu ça comme un élément inutile, dans la mesure où il y a déjà des congrégations religieuses depuis l'Antiquité et quasiment le Moyen-Âge. Par ailleurs, il y a cette idée nouvelle qui est liée à la devotio moderna, c'est-à-dire à une espèce de conscience un peu personnelle rapport aux religieux, que il y a une pente protestante dans la spiritualité jésuite. Et donc, ces critiques-là ont été portées en France et ont été augmentées, entre autres auprès du Parlement de Paris, qui a vu une espèce d'influence ultramontaine qui allait s'opposer à ce qu'on voit apparaître, qu'on appelle le gallicanisme, c'est-à-dire une espèce de version nationale du catholicisme. Et donc le Parlement va assez rapidement objecter, voire empêcher, contraindre, voire interdire la Compagnie de Jésus. Et donc l'évêque de Clermont, donc Clermont-Ferrand aujourd'hui, a offert une possibilité aux jésuites d'ouvrir un établissement, comme je l'ai dit, en 1556 à Billon. De là, ensuite, les jésuites pourront se rapprocher de Paris, puisqu'il a un hôtel particulier, on ouvrira un établissement scolaire. Dans l'histoire de France, toujours très mouvementée, on va accuser les jésuites de différents maux, et entre autres, alors aussi bien ce sont les soutiens des rois, mais aussi des régicides. Et donc au moment des attentats contre Henri IV, en particulier, la compagnie est interdite sur le territoire français. Donc il y a une espèce de période d'éclipse entre 1594 et puis 1604 environ, où les jésuites ont dû quitter les territoires qui dépendaient entre autres du Parlement de Paris parce qu'ils sont interdits. Mais lorsqu'ils reviennent, après une sorte de pacte négocié avec Henri IV, les jésuites ont fait montre, certains étaient quand même très proches de la Ligue catholique, ont fait montre d'une volonté, sinon d'ouverture, en tout cas d'accommodation. Henri IV lui-même va subventionner et soutenir le collège de la Flèche, donc on est près du Mans, qui va devenir une espèce de collège royal, collège dans lequel Henri IV recommande aux parents de placer les enfants des élites parisiennes. Et puis, il le pensionne. Un collège jésuite, c'est un collège qui met à disposition des professeurs, mais qui fonctionne grâce à des dotations, à des bourses, ce qui permet d'accueillir des enfants dont les parents, évidemment, n'ont pas de fortune suffisante pour faire faire des études aux enfants. Et on est surpris, et je pense que c'est une idée qui peut-être détonne un peu aujourd'hui, de savoir, par exemple, à Billon, dont j'ai parlé, 26% des élèves sont des enfants d'agriculteurs, de paysans, relativement modestes. Alors, tout le monde ne fera pas, évidemment, un cursus complet et n'ira pas jusqu'à la théologie, mais dans la mesure où cet enseignement est gratuit, l'établissement étant une forme d'externat, et ceux qui ont à loger sur place trouvent pension chez l'habitant. Certains élèves peuvent être boursiers, c'est-à-dire que l'évêque de Clermont avait prévu, par exemple, que dans la dotation, il y aurait, par exemple, 18 élèves qui seraient scolarisés gratuitement. Ça donne à la compagnie, on a souvent une image un peu aristocratique qu'on va retrouver dans les périodes les plus récentes, c'est-à-dire au 19e, 20e siècle, mais en fait une ouverture sociale bien plus grande qu'on ne l'imagine souvent. Un élément encore, ce qui est très étonnant dans la compagnie, c'est sa capacité d'adaptation. Ignace a donné son autorisation pour qu'on ouvre un collège à Messine et, comme je l'ai dit, on va s'inspirer de la méthode parisienne, de ce qu'ils ont connu à Paris, c'est-à-dire la succession des classes et au fur et à mesure de l'obtention des grades. Donc on crée un système pédagogique, mais à partir d'une pratique, d'une expérience qui a été celle des différents jésuites. Et puis, évidemment, le temps passe et une quarantaine d'années plus tard, c'est-à-dire 2 générations plus tard, les anciens, les pionniers commencent à disparaître et on trouve nécessaire de fixer un petit peu les usages, l'expérience. On ne part pas d'une doctrine, on parle d'usage et d'expérience. Et donc, cette expérience, elle commence à être fixée en 1586, où on fait circuler dans tous les collèges de la compagnie du monde entier, pas seulement de France ou même d'Europe, la question des usages. Comment pratiquez-vous? Dans ce qu'on va appeler le ratio studiorum, c'est-à-dire la méthode des études, on explique qu'il y a évidemment plusieurs classes, c'est-à-dire que les élèves sont regroupés en différentes parties, selon leur âge et surtout selon leur niveau d'études. Dans cette pratique, donc, qui est un peu codifiée en 1586, on va faire circuler cette information et préciser les éléments. Quel est le rôle du recteur, par exemple, qui est à la tête de la communauté scolaire? Quel est le rôle du professeur de philosophie? Quel est le rôle du préfet des études? Quel est le rôle du professeur de grammaire, par exemple? Mais quel est le rôle aussi du père spirituel, celui qui s'occupe de la conduite des âmes, de la direction en particulier des élèves? Donc ces éléments-là sont peu à peu codifiés. Et puis, le texte circule, est amendé, on renvoie à une commission romaine les modifications à faire, et puis on va se trouver encore une quinzaine d'années plus tard sur un texte quasi définitif qui va être envoyé désormais, donc on est 50 ans après la création du premier collège, qui va être envoyé donc à toutes les collèges et qui va devenir la norme, donc 1599, la ratio studiorum, les principes, comment on organise un collège jésuite, quel professeur on met à quel poste et surtout quels sont les programmes des études. Cet élément qui est déterminant, donc une fois encore qui part d'une expérience qui est quasiment désormais universelle, on va le retrouver au cours des âges, y compris au 19e siècle. C'est-à-dire qu'ici, au Collège de Mongrée, au 19e siècle et encore au début du 20e siècle, on fonctionne et on enseigne et on éduque à partir du code pédagogique, la ratio studiorum, fixée en 1599. Donc il y a un élément de très longue durée, une permanence, mais d'une efficacité redoutable, dans la mesure où la chose a d'abord fonctionné, elle a été codifiée et elle est perpétuée, dans la mesure où on a gardé naturellement ce qui fonctionnait. Alors pour dire les choses relativement, même simplement, les élèves suivent une progression. Et donc il y a une séparation en classe, mais aussi une progression en niveau. Et au fur et à mesure de l'avancement dans leurs études, ils acquièrent donc des éléments d'abord de connaissance de la langue latine, qui est déterminante, et puis ensuite aussi de la maîtrise du discours. Cicéron est l'auteur évidemment classique et principal. Mais ensuite, on va fixer les éléments de la rhétorique. L'idée, dans cette contre-réforme catholique ou de réforme catholique, comme on dit au XVIe, XVIIe siècle, l'idée c'est de former non pas seulement des religieux, mais aussi des laïcs qui vont être influents dans leur milieu. Et donc, il faut former, grâce aux matières littéraires, des hommes, puisque les collèges jésuites sont réservés aux garçons, former des hommes qui ensuite vont être influents dans leur époque. Alors, on va créer une scolarité à côté de laquelle on va fixer des éléments de piété. Donc le collège est toujours un lieu dans lequel on pratique. Alors on va le voir un peu plus tard quand on se trouvera dans la chapelle. Il y a des éléments caractéristiques de la spiritualité jésuite. Mais l'école, d'une certaine manière, aussi accompagne dans des éléments je dirais, d'émulation. Les meilleurs élèves participent par exemple à l'académie, qui regroupe les meilleurs élèves. Il y a une mise en place de notes, une notation, et puis il y a des récompenses, il y a des distributions hebdomadaires et ensuite annuelles de prix. Les meilleurs élèves sont récompensés. Mais il y a en parallèle une espèce d'école de dévotion dans laquelle sont appelés les plus fervents, qu'on appelle la congrégation mariale. Donc une création de 1563 par un jésuite des Pays-Bas. L'idée est de réunir les plus fervents des élèves sur un modèle, je dirais, de cooptation, puisque en fait les élèves eux-mêmes choisissent leur préfet de congrégation et donc sont élus à la mesure de la dévotion qu'ils pratiquent au collège. Après le collège, ces élèves qui vont quitter le collège ne quittent pas tout à fait la congrégation. La congrégation est dite mariale parce qu'elle est sous l'autorité de la Vierge, et donc il s'agit dans la société de refaire un petit peu ce qu'on a fait au collège, c'est-à-dire faire de l'autre, dans son milieu, un chrétien le plus chrétien possible. Alors, ces éléments sont aussi une manière de toucher les parents, puisqu'un enfant qui est renvoyé dans sa famille va être aussi quelqu'un qui va transposer ce qu'il a trouvé au collège dans le milieu familial. Et puis ensuite, dans sa profession, alors le plus souvent dans des matières comme avocat, homme de loi par exemple, mais aussi militaire à l'époque par exemple, les jésuites vont s'adapter en appliquant sous la direction de Vauban aussi des écoles qui forment au métier militaire ou à la marine. L'idée c'est dans son milieu d'être aussi un apôtre, d'évangéliser et donc de faire passer ce message chrétien. Donc la congrégation mariale, elle est le sommet ultime, mais c'est aussi une manière d'influence, on dirait aujourd'hui, de réseau dans la société française et la société européenne. Il y a une Europe des dévots. Dès l'entrée dans le bâtiment, nous avons accès à la chapelle. La chapelle qui, comme dans les collèges d'Ancien Régime, en fait a un accès direct sur l'extérieur et sur la ville. Effectivement, nous ne sommes pas à Mongrais dans une communauté religieuse, un monastère, mais bien dans une communauté ouverte sur l'extérieur, ce qui permet la circulation non seulement des enfants pour entrer, des élèves, mais aussi des familles qui vont venir les rejoindre. Alors ici, on a les trois éléments principaux, je dirais, de la spiritualité jésuite, avant même de parler de théologie. Vous voyez des éléments derrière moi qui sont ceux du confessionnal, la confession, et puis un peu plus loin, la chaire, et puis ensuite, et naturellement, dans le chevet de l'église, on trouve l'autel. Pourquoi ? Parce que les jésuites sont d'abord des moralistes, c'est-à-dire il s'agit de convertir, de changer sa vie, et donc on passe naturellement par le confessionnal. Mais c'est aussi un ordre de prédicateur, de prêcheur, et donc la chaire est très très importante, et on fait descendre vers les élèves le texte, alors non seulement des évangiles et de la Bible, mais surtout les commentaires qu'en font les religieux jésuites. Et puis ce qui est le sommet de la vie chrétienne, c'est l'Eucharistie, et sur l'autel, il y a le détail d'ailleurs de la scène. Alors, c'est l'occasion de dire, au sommet des confessionnaux, on voit cette IHS, le fameux idéogramme jésuite, Jesus homine salvator, Jésus sauveur des hommes. La compagnie est dite de Jésus, puisque ses amis dans le Seigneur veulent se réunir autour de Jésus, et que la vie de Jésus, c'est sa passion, sa mort, et la scène avec l'Eucharistie. Dans cette chapelle, peut-être signaler deux statues principales. La première, c'est Ignace de Loyola, alors qu'on voit ici représenté en vêtements liturgiques et qui tient le livre, mais qui n'est pas celui des exercices spirituels, curieusement, mais bien celui des règles jésuites, comme si auprès du confessionnal, l'idée de discernement de vocation et de former de futurs jésuites pouvait venir à l'idée des éducateurs. Et puis on a une autre statue qui est près du cœur, c'est celle de la Vierge, mais une Vierge ici couronnée et avec enfant. Alors, la Vierge, elle est très importante dans la spiritualité des jésuites et d'Ignace de Loyola en particulier. Et il y a un passage assez simple entre sa vie personnelle, qui était celui d'un chevalier mondain, amoureux des dames, qui n'hésitait pas à courtiser, aimant les beaux vêtements et les bonnes attitudes. Et puis ensuite, lors de sa conversion, ce passage à Notre-Dame, Nostra Señora en espagnol, cette idée de Notre-Dame, qui est évidemment la mère qui a mis au monde Jésus, donc encore le cœur de la spiritualité chrétienne. Et cette personne, elle est aussi un modèle à suivre dans la mesure où c'est celle qui a écouté, reçu et accepté la parole de Dieu. Donc la Vierge, dans la spiritualité jésuite, elle est très très importante. Et c'est elle d'ailleurs qui va donner son nom à la congrégation mariale la plus élevée, la bienheureuse Vierge Marie. qui est celle des élèves les plus âgés dans le collège. Les trois éléments principaux du collège jésuite, c'est la piété, nous avons quitté la chapelle, sont les études, évidemment, avec la Ratio Studiorum dont nous avons parlé, et le préfet, d'ailleurs le préfet des études, celui qui est en charge de l'application de la Ratio Studiorum, se trouve au pied de ce grand escalier monumental et solennel. Donc, un établissement dans lequel règne piété et études, mais qui fait respecter aussi une certaine discipline. Il y avait pas loin d'ici le cachot dans lequel étaient enfermés les élèves les plus récalcitrants pendant un temps donné, sachant qu'on a souvent fait reproche aux jésuites d'avoir un enseignement relativement froid et plutôt rigide. Dans les textes et l'usage de la tradition pédagogique jésuite, ce ne sont jamais les jésuites eux-mêmes qui donnent les corrections, c'est un personnel laïque qui est... à qui est confiée cette tâche de corriger les élèves. Ignace avait connu ces désagréments lorsqu'il était au collège Sainte-Barbe à Paris, où on donnait le fouet aux étudiants qui étaient un petit peu en dehors des études proprement dites. Alors dans cette montée d'escalier solennel, vous voyez qu'on est dans un grand bâtiment de 80 sur 100 mètres de côté, cet escalier monumental en impose et donne aux élèves une impression de solennité. D'autant que l'escalier est surmonté par le portrait de Saint Ignace, alors qu'on le retrouve une fois encore dans son vêtement liturgique, c'est-à-dire que c'est le prêtre qui est présenté, non pas le mystique ou l'homme, le chevalier converti. Et là, il présente le fameux livre des exercices spirituels. Les exercices spirituels, c'est le texte que Ignace a rédigé après son passage durant une année à Morez, au cours duquel il a réfléchi à sa démarche de conversion. Il rédige dans des exercices un chemin, et ce qui va donner lieu en fait à l'origine de la pédagogie jésuite. Dans la pédagogie jésuite, vous avez un maître qui accompagne l'élève. Donc on démarre d'une démarche qui est spirituelle, mais ensuite elle se transforme en une véritable pédagogie. Et dans les classes en particulier, le maître est un commentateur du texte et il met ensuite les élèves au travail, qui sont amenés à restituer, à refaire les exercices sous l'autorité du maître. Et puis il y a une part qui est concédée aussi à ce qu'on appelle l'enseignement mutuel, c'est-à-dire que les autres élèves participent aussi à la formation de l'un d'entre eux. Il y a un jeu d'échange entre les deux. Mais il y a une transposition qu'on pourrait qualifier presque de directe entre, d'un côté, les exercices spirituels, le cœur de la spiritualité jésuite, et sa transposition dans le domaine scolaire, avec cette discipline assez sévère, assez rigoureuse. Les élèves, évidemment, à cette époque, circulent non pas seulement en groupe, mais en rang, et ne peuvent se déplacer entre les cours qu'avec une autorisation du préfet des études, un billet qui leur permet de circuler. Et c'est un monde très organisé qui fonctionne au jour le jour, au quotidien, dans l'établissement, aller d'une salle de classe à une autre, ou d'une salle de classe à une aire de jeu ou à l'étude, qui joue un rôle déterminant à l'époque dans l'enseignement jésuite. L'histoire de l'enseignement jésuite, en France en particulier, c'est aussi une histoire politique, celle entre autres de l'acceptation ou non de la compagnie à différentes époques. À tel point qu'en 1762, le Parlement de Paris interdit la compagnie de Jésus en France. Les jésuites sont priés de disparaître, donc certains se sécularisent, d'autres quittent la France, la compagnie n'existe plus sur le territoire français. En 1773, le pape lui-même va dissoudre la compagnie de Jésus. Là-dessus, la révolution va venir confirmer évidemment le rapport difficile de la modernité avec l'élément religieux. Les jésuites sont rétablis toutefois en 1814 seulement, au moment de la période dite de la Restauration, où les monarchies, après l'épisode révolutionnaire, essayent de revenir en Europe. On va longtemps assimiler les jésuites au parti monarchiste. C'est le fait qu'ils soutiennent les royautés. Mais souvent, ceux qui sont les opposants des royautés vont s'opposer à la compagnie pour éviter le choc frontal avec le roi. En France en particulier, que ce soit Louis XVIII ou Charles X, Louis XVIII qui accepte que les jésuites reprennent pied en France et se fassent discrets, sans avoir pour autant de reconnaissance officielle. Ce qui fait que dans les discussions ou les disputes de société française, en 1828, pour lâcher du lest, des décrets sont pris pour interdire l'enseignement aux jésuites. Eux-mêmes avaient repris modestement l'enseignement dans 8 petits séminaires seulement. Mais en 1828, pour continuer à enseigner, ils sont obligés de quitter la France et trouvent refuge dans des territoires qui se trouvent au-delà des frontières françaises. Là-dessus, La révolution de 1838, celle de 1848, marque l'affirmation quand même du courant libéral et républicain. Et les jésuites ont trouvé à nouveau une faveur en 1850 avec la loi Falloux, qui est consécutive à la révolution de 1848, le moment où la peur de la bourgeoisie face à la montée du mouvement ouvrier ou de la contestation sociale fait qu'on rappelle les jésuites, une fois encore, pour tenir la digue face à la contestation et rétablir l'ordre social par le biais de l'éducation. Les jésuites ouvrent à ce moment-là de nombreux collèges en France, à peu près sur tout le territoire français, avec une chose quand même un petit peu différente. Autant les collèges de l'Ancien Régime étaient souvent des externats, avec des élèves donc qui étaient scolarisés grâce à des fondations, autant au XIXe siècle, on va proposer aux élèves une scolarité à la mesure évidemment du paiement d'un tribut par les familles. Ce qui fait que ça donne une coloration particulière et que ces familles, souvent riches, aristocrates début du 19e, vont être remplacées dans la deuxième partie du 19e par des familles bourgeoises, mais elles, qui étaient auparavant peut-être voltairiennes, mais plutôt soucieuses d'un ordre social plutôt établi. Le fait est que quand la République est proclamée en 1870, elle met en fait une dizaine d'années à s'établir. Et l'opposant à l'idée républicaine, c'est une fois encore le parti conservateur et clérical. Qui va-t-on accuser, les jésuites, d'être les représentants de ce parti clérical? En 1880, Jules Ferry interdit l'enseignement aux jésuites. Nouvel exil, après celui de 1828, les jésuites qui veulent continuer à enseigner sont obligés de quitter le territoire français et d'ouvrir des collèges au-delà des frontières. L'histoire ne s'arrête pas là. L'affaire Dreyfus cristallise et fixe un petit peu les oppositions. Et donc, à la fin du 19e siècle, à la faveur d'abord de la loi de 1901 sur les associations, desquelles sont exclus d'emblée les jésuites, puis ensuite en 1904, contre les congrégations religieuses elles-mêmes, les jésuites, qui avaient timidement voulu retrouver une présence en France, sont obligés de s'exiler à nouveau. Et donc là, on se trouve dans des collèges d'exil, qui souvent d'ailleurs sont des lieux dans lesquels ceux qui sont en particulier pas particulièrement favorables à l'idée républicaine vont se retrouver et fonder l'idée d'une reconquête de la société française. 1905, la séparation de l'Église et de l'État, des Églises et de l'État, en réalité, touche pas beaucoup la compagnie, puisque cette loi, elle concerne surtout le régime concordataire, et les jésuites, eux, n'étaient que tolérés durant cet espace de temps. Alors, il faut savoir que les jésuites, depuis la fin du XVIIIe siècle ou le début du XIXe, avaient conçu l'idée que la suppression de la Compagnie de Jésus, sous l'effet ou la pression ou l'influence des loges maçonniques, en fait, préfigurait ce qu'allait devenir la Révolution française, c'est-à-dire un grand mouvement de sécularisation, de déchristianisation. Et donc, pendant tout le XIXe siècle, cette opposition de la Compagnie face aux idées progressistes ou plutôt libérales ou celle des Lumières pour aller au plus rapide, va se trouver confrontée avec l'autre versant qui reproche aux jésuites d'être les tenants de l'obscurantisme, de l'idée la plus conservatrice du catholicisme. Alors, ce n'est pas tout à fait faux, mais le moment qui marque celui d'une quasi-guerre civile, c'est l'épisode de la Commune en 1870-1871, au moment où la Commune de Paris se mobilise, d'abord contre l'occupant, et puis ensuite en interne contre le parti qui est installé à Versailles. Et là, lors des événements qui marquent la fin de l'épisode communard, des jésuites se trouvent pris dans les otages qui sont fusillés à Paris. Et donc il y a toute une mémoire en plus dans la compagnie qui durcit encore cette idée d'opposition à la République et aux idées républicaines. L'affaire Dreyfus ne viendra en fait que confirmer cette opposition. Et la République ne peut s'affirmer qu'en opposition avec les jésuites. L'enseignement jésuite reprendra véritablement au lendemain de la Première Guerre mondiale, à la faveur en réalité de ce qu'on appelait l'Union sacrée, et le fait que les jésuites rentrés d'exil ont accepté de se mobiliser, alors le plus souvent comme brancardiers, mais ont accepté l'élan patriotique pour retrouver une place et se réintégrer dans la nation française. À l'origine de la difficulté de l'enracinement de la Compagnie de Jésus en France, il y a d'abord l'hostilité du Parlement de Paris depuis le XVIe siècle à l'égard de la Compagnie. Alors, l'ordre est d'abord un ordre fondé par un Espagnol. C'est par ailleurs un ordre qui est fidèles ou qui se sentant fidèles au pape. Et donc, on entre dans cette querelle de l'ultramontanisme et aussi du gallicanisme. Les jésuites sont considérés comme les opposants au gallicanisme. Alors, sans entrer dans le détail du jansénisme, mais à la fin du XVIIIe siècle, entre autres pour l'avancée des idées politiques, au siècle des Lumières, l'idée c'est qu'il est difficile au Parlement de s'opposer directement au roi, mais on peut s'opposer à la congrégation supposée être le soutien le plus fidèle au roi très chrétien. Et donc en 1762, un peu contre l'avis d'ailleurs du souverain, de Louis XV, qui n'était pas du tout favorable à la suppression, à l'interdiction de la compagnie, le Parlement va d'abord prendre un arrêté d'interdiction sur les territoires où la compagnie est installée. Cette opposition fondamentale l'institution politique à l'égard de la compagnie, en fait, se traduit aussi dans l'idée des Lumières par une opposition de fond. Entre autres, quand on évoque le XVIIIe siècle, on parle aussi des loges maçonnes et de ce que ça peut représenter. Certains jésuites, les contemporains qui ont vécu la suppression de la Compagnie de Jésus, ont directement fait le lien entre ces loges maçonnes, cette idée, cette espèce de déisme qui évidemment n'est pas directement relié au christianisme et à Jésus-Christ. Un personnage parmi les plus connus, c'est Augustin de Baruel, qui est un jésuite, qui va être obligé donc de se séculariser et qui va devenir le théoricien après la Révolution des origines supposées de la Révolution française. Et il voit dans la suppression de la Compagnie de Jésus une sorte de préfiguration de ce que deviendra l'œuvre pour lui de la Révolution française, c'est-à-dire cette entreprise de déchristianisation, cette modernité qui s'oppose à l'Église catholique. Au lendemain de la Révolution, dans les années dites de la Restauration, Baruel est un auteur très lu. Alors il faut l'ajouter aussi à Joseph de Maistre, qui a un point de vue, et comme laïque, ancien élève des jésuites, un point de vue semblable sur cette idée de l'opposition et d'un complot, en réalité, de la société contre la Compagnie de Jésus. A l'inverse, les jésuites sont considérés aussi comme les représentants d'un ordre religieux qui a voulu, au cours de son histoire, travailler évidemment à son avantage. Alors, on a parlé rapidement de la congrégation, qui est la manière de former des laïcs et en faire des personnages influents dans la société. L'idée, c'est que la compagnie travaille sans arrêt, au travers de ses collèges, de ses prédications, de ses ouvrages, dans une sorte de projet de contrôle, de prise, on va dire, du pouvoir mondial. Dans la première moitié du 19e siècle, avec les débuts de la presse populaire, du feuilleton, cette idée, cette espèce de mythe jésuite capable de contrôler la société, émerge avec l'idée d'une congrégation, alors dont on ne connaît pas trop les membres, mais dont tous les membres sont des personnages influents et cherchent dans la société à gagner en particulier les postes et évidemment à influer sur le régime et les décisions politiques. Cette idée du mythe jésuite, du complot jésuite contre la société, va courir durant tout le 19e siècle, quasiment jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec cette idée que les jésuites eux-mêmes, ou par des intermédiaires, tentent dans la vie politique d'influer et une fois encore de faire passer un message qui est celui toujours du contrôle de la société. Alors, dans la caricature qui prolifère évidemment dans ce siècle-là, au fur et à mesure du développement de la presse, on représente souvent les jésuites comme étant alors soit des dindons, ça c'est la partie la plus ironique, mais aussi comme des étés noirs, c'est-à-dire ceux qui contrôlent les intelligences et essayent toujours de faire basculer la société dans le sens de l'obscurantisme. Et ce combat, une fois encore, sera finalement oublié, ou en tout cas commencera à s'effacer, quand on verra émerger dans la première moitié du XXe siècle, des jésuites qui sont aussi de véritables personnalités intellectuelles. Parmi les anciens élèves devenus personnalités illustres du Collège de Montgré se trouve Pierre Teilhard de Chardin, né en 1880 et représentatif d'une nouvelle génération de la compagnie, d'ailleurs ce qu'on a appelé la troisième compagnie, l'ancienne jusqu'à la suppression 1762-1773, et puis ensuite la nouvelle compagnie 1814, et puis une troisième compagnie qui commencerait a émergé au lendemain de la Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que Pierre Teilhard de Chardin, formé d'ailleurs d'abord dans les sciences, passionné par la géologie, au lendemain de la Première Guerre mondiale, a vécu ce qu'il a appelé un baptême dans le réel. Personnage donc qui va réfléchir entre autres à l'évolution, à l'histoire de l'humanité, va être un personnage reconnu. Il participe par exemple à la croisière jaune, c'est quelqu'un qui est en paléontologie, qui commence à être reconnu comme une personnalité scientifique. Donc cet homme-là, dans la société, change le visage et l'image de la Compagnie de Jésus à l'époque contemporaine. Depuis ses origines et depuis son installation en France, la compagnie a couvert quasiment tout le territoire français de très nombreux établissements, alors plus ou moins grands, évidemment Paris, j'avais évoqué Billon, le premier collège à l'est de Clermont-Ferrand, et qui ensuite s'est transporté à Paris et qui a donné lieu ensuite au collège Louis-le-Grand, à la mesure évidemment de la faveur qu'espérait récupérer la Compagnie de Jésus auprès de ce nom prestigieux, celui de Louis XIV. Mais il y a aussi d'autres collèges à Lyon, très célèbre celui de la Trinité, dans lequel d'ailleurs a été actif le père Ménétrier, grand spécialiste des ballets et des spectacles de l'époque classique, mais aussi dans des villes comme Amiens par exemple ou comme Toulouse. Chaque province, il y en a 4 ou 5 à l'époque moderne, dispose en fait d'un ensemble de collèges. La Compagnie de Jésus et son enseignement est un phénomène urbain, donc toutes les villes ou presque sont touchées, de Lille au nord jusqu'à Marseille, passant par Montpellier, j'ai évoqué Clermont-Ferrand aussi, mais il y a aussi Aurillac, Bordeaux naturellement, et puis aussi toutes les terres de l'Ouest français. Alors la croissance est telle, à une époque de crise de l'enseignement et surtout aussi de l'université française, que quelques années avant sa suppression, au XVIIIe siècle, la compagnie dirige environ 600 établissements sur le territoire français et est le principal ordre religieux qui scolarise, on va dire, très largement et de manière assez grossière, les élites françaises. Après la suppression de la Compagnie de Jésus en 1762 en France et 1773 au niveau universel, le système d'enseignement connaît une crise. Les établissements sont repris par d'autres ordres religieux, comme les oratoriens en particulier. Et puis la Révolution française vient parachever cette crise d'enseignement universitaire. Napoléon, en lançant le lycée, en fait, va s'inspirer beaucoup du modèle jésuite dans son organisation. Et au XIXe siècle, la faveur, le prestige, l'idée, la mémoire qu'on avait de l'enseignement jésuite rejaillit au moment de la loi Falloux et de l'efflorescence nouvelle de collèges qui là aussi couvrent tout le territoire. Des municipalités font appel aux jésuites, donc à nouveau à Paris, mais aussi par exemple à Avignon, à Montpellier, à Marseille, souvent dans le souvenir de cet âge d'or qu'était la compagnie au XVIIe, XVIIIe siècle. Alors la compagnie a eu connu quand même quelques vicissitudes et au XIXe siècle, les reproches qui lui sont faits sont souvent ou rarement à la mesure de l'effectif réel. C'est vrai que nombre d'anciens élèves des jésuites ont fréquenté par exemple des écoles comme Saint-Cyr, puisque dans les familles aristocratiques, le débouché naturel, c'est souvent la profession militaire. Mais la crise de la fin du XIXe et du début du XXe siècle montre bien quand même les limites de l'influence jésuite, sans quoi les jésuites eux-mêmes n'auraient pas été interdits à partir de 1904 et n'auraient pas eu à regagner des positions dans la société française, dans l'enseignement. Il y a une mutation tout de même qui se fait au début du XXe siècle, c'est l'investissement des jésuites dans les ICAM, les Instituts catholiques d'arts et métiers, comme à Lille par exemple, mais à l'école aussi agricole de Purpan, du côté de Toulouse, où on voit les jésuites investir davantage dans un enseignement technique, mais qui est plus proche du développement de ce qu'on va appeler les ingénieurs. Et puis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à la faveur aussi de la transformation, de la conversion des catholiques à la mission, le retour de la mission, les jésuites se désintéressent, au moins dans la jeune génération, de l'enseignement. Et on va voir un certain nombre de collèges fermés, c'est le cas de Montgrès à Villefranche-sur-Saône, mais c'est aussi la faveur donnée davantage à des externats à Lyon plutôt qu'à des internats comme l'était le collège de Montgrès. D'autres vont perdurer à Amiens, par exemple à la Providence d'Amiens, qui va rester un grand collège, mais qui lui s'engage dans une espèce de réforme pédagogique avec la création des équipes, un peu inspirée de l'école des Roches. Et puis dans les années 50-60, à la faveur aussi de la crise des vocations religieuses, qui est antérieure au Concile Vatican II, les jésuites vont peu à peu passer le relais à des associations de laïcs. Et en 1973, le père Calvez, qui est le provincial de France, va confier à des associations régionales la tutelle des différents établissements jésuites. Alors aujourd'hui, l'enseignement jésuite peut-être le plus connu, c'est l'école Sainte-Geneviève, la formation de futurs candidat aux grandes écoles, des classes préparatoires, est un élément important dans ce qu'on appelle la stratégie scolaire de la Compagnie de Jésus. Mais on vit désormais beaucoup sur un héritage et la Compagnie a transmis le témoin à des laïcs qui, comme à l'époque moderne, finalement, poursuivent dans la société française le rôle d'influence que la Compagnie voulait avoir depuis ses origines. Colloque dans lequel je parle de la Compagnie de Jésus, je me souviens d'avoir été interpellé un jour à Bruxelles, après ma communication par une personne, un monsieur, beaucoup de prestance, le verbe haut, qui ensuite est venu me voir et qui m'a dit « Je suis un ancien élève des Jésuites ». Je lui ai dit « Oui, je vous avais déjà reconnu ».